Et maintenant, nous retournons à la parole, mais maintenant, Acte chapitre 17. Acte chapitre 17. Ce chapitre, ou ce demi-chapitre, à partir de verset 16, nous donne l'exemple le plus complet du Nouveau Testament de l'évangélisation de ceux qui sont illettrés, c'est-à-dire du point de vue biblique, dans les sermons de Acte 2, par exemple, ou de Acte 13. Voici des sermons dans le contexte du monde juif, ou au moins d'un synagogue dans le monde païen. Donc, des personnes, soit des juifs, soit des païens qui s'attachent aux synagogues, qui sont déjà informés en ce qui concerne la parole de Dieu. Mais ces personnes, ici, dans cette ville, n'ont aucune idée de ce que dit Moïse. Probablement, ils n'avaient jamais entendu parler de lui. Et certainement, même dans le monde anglais, quand je fais des missions dans les universités, la grande majorité de ces étudiants aujourd'hui ne savent pas qu'il y a deux testaments dans la Bible. Ils n'ont jamais entendu parler d'Abraham ou d'Ésaïe. Je ne mentionne pas Sophonie. Et s'ils ont entendu parler de Moïse, probablement c'est parce qu'ils ont vu un film. Et si on leur demande, quels sont les 10 commandements? Est-ce que vous connaissez les 10 commandements? Oh oui, je connais les 10 commandements. Eh bien, quels sont les 10 commandements? Probablement, il ne faut pas commettre l'adultère. À part de cela, je ne suis pas certain. Je suppose qu'on ne devrait pas haïr quelqu'un. Il faut être tolérant. Ils ne savent rien, ils ne savent rien. Hein? Et le passage le plus intime, le plus détaillé à cet égard dans le Nouveau Testament, pour nous donner un exemple comment un apôtre s'est approché du monde illettré dans le Nouveau Testament, dans le premier siècle, se trouve ici dans Actes chapitre 17. Mais avant d'examiner ce qu'il dit aux Athéniens à partir de verset 22, ça vaut la peine de faire quelques remarques en ce qui concerne le contexte. Comme Paul les attendait à Athènes, c'est-à-dire Silas et Timothée, mentionnés dans verset 15, il avait en lui-même l'esprit exaspéré en contemplant cette ville vouée aux idoles. Premier point. Autant que nous sachions, c'est la première fois que l'apôtre Paul a visité Athènes. Mais au lieu d'être tellement impressionné à cause de la culture, après tout, dans le premier siècle, c'était la Sorbonne, c'était Harvard. Il était exaspéré à cause des idoles. C'est-à-dire, il voyait la culture du point de vue de Dieu. Si nous sommes tellement impressionnés des forces ou des choses, des fois assez admirables, l'architecture, après tout, à Athènes, qu'on peut voir aujourd'hui, après tout, lui, par contre, analyse la culture du point de vue de Dieu. D'ici 5 milliards d'années, qu'est-ce qui va continuer? Le Parthénon ou l'Évangile? L'Areopagite ou l'Église? Donc, ça nous prend un effort intellectuel et de volonté de tellement se soumettre à la parole de Dieu qu'on commence à adopter une vision du monde biblique. Autrement, notre analyse de la culture sera toujours domestiquée par la culture. On continue. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et ceux qui craignaient Dieu, c'est-à-dire les païens qui s'attachaient à la synagogue, et sur la place publique chaque jour avec ceux qui s'y rencontraient, c'est-à-dire il faisait de l'évangélisation parmi les Juifs et ceux qui craignaient Dieu, et il faisait de l'évangélisation parmi les païens qui ne connaissaient rien de la religion juive ni de l'héritage de l'Ancien Testament. Et après tout, c'est ça qu'il a fait dans tous ses voyages, n'est-ce pas? Dans chapitres 13 et 14, on le voit non pas tout simplement dans la synagogue à Antioche en Pisidie, mais parmi les païens, on le voit là aussi. Hein? C'est tout simplement qu'on n'entend pas ses sermons. Les sermons ne sont pas préservés. Mais il continue. Il prend occasion de faire de l'évangélisation dans de places différentes. Et l'auteur ici, Luc, il reconnaît qu'il y a des situations différentes parmi les Juifs, un monde lettré en ce qui concerne la Bible, et dans le marché où il y avait franchement un monde illettré. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres disaient, « Il semble être un prédicateur de divinité étrangère, cela parce qu'il annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. » Maintenant, quelques points. Numéro 1. Quand nous avons affaire avec des personnes illettrées, du point de vue biblique, ça ne veut pas dire qu'ils sont ouverts à tout recevoir. Ils ont déjà des croyances non bibliques. Illettrés ne veut pas dire qu'ils ne connaissent rien, et donc nous pouvons écrire n'importe quoi de la vérité sur leur mémoire. Leur mémoire, leur compréhension, leur position, leur vision du monde est déjà établie. Donc, il y a des choses à écraser, à briser, à ôter, à ramasser, à effacer. Parce qu'après tout, ce n'est pas que ces personnes ne croient rien et maintenant ils sont ouverts à croire la vérité. Ils ont des croyances déjà. Ils sont stoïciens, ils sont épicuriens. Les épicuriens croyaient que les dieux et les déesses étaient construits d'atomes tellement petits qu'ils demeuraient dans les espaces des atomes du monde matériel. Et de même façon, la meilleure chose à faire, c'est de se reculer de ce monde. De se reculer de ce monde et donc de ne pas être influencé par ce monde afin de vivre une vie de joie et de fulfillment, de jouissance, oui. Et de jouissance parce que nous sommes en accord avec les dieux et les déesses qui s'en fichent largement de ce monde. Et donc, quelques-uns des épicuriens devenaient en effet presque athées parce que leur Dieu était tellement distancé du monde que franchement, ça voulait presque dire qu'il n'était pas là. Les stoïciens, par contre, croyaient que la méchanceté, le malin, est attaché à la passion. Ce que ça prend, c'est la volonté, l'ordre, logos, raison, et si nous vivons en accord avec les dieux à cet égard, nous serons bien. Ce n'est pas une question d'être heureux, joyeux, mais de vivre en accord avec logos, le logos des dieux. Ça vaut la peine encore de lire les stoïciens du deuxième et troisième siècle. Et à cet égard, donc, ils étaient des personnes pleines de moralité, de discipline, de principes. mais pas de passion, pas de crainte, pas d'amour, pas de sympathie, de raison. Mais par contre, Paul parle d'un Dieu qui a tout créé, comme nous allons voir, qui est juste, qui nous juge. Et ce qui est mal dans le monde, ce n'est pas la passion, ni le fait que nous oublions que les dieux sont construits d'atomes tellement petits, tellement distancés de notre vie que nous devions agir comme eux. Mais ce qui est mal dans le monde, c'est la rébellion, c'est l'idolâtrie. Et donc la solution est différente. La manière d'être sauvé est différente. Et c'était tellement différent même que quand Paul parlait de l'Évangile, ça semblait tellement étrange, des dieux étrangers, des divinités étrangères, des dieux étrangers. Donc souvent aussi aujourd'hui, quand nous voulons exprimer l'Évangile, il faut se rendre compte que le monde autour de nous n'est pas tout simplement illettré, mais le monde autour de nous apporte avec eux des présuppositions, des préjugés, des présuppositions de leur religion, même s'ils sont irréligieux, c'est-à-dire de leur valeur ultime, même si c'est humanisme ou si c'est le matérialisme ou quoi que ce soit. Notez bien aussi que Paul annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Nous allons revenir à ce point vers la fin de son sermon. Mais notez bien le passage en passant et j'y reviendrai. Alors ils le prirent, le menèrent à l'Areopage et dirent: pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles? Car tu portes à nos oreilles des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. Or, tous les Athéniens et les étrangers venus parmi eux ne passaient leur temps qu'à dire ou écouter quelques nouvelles. Oh, pareil comme nos universités aujourd'hui. Je pense que je devrais mentionner aussi que le mot philosophie ou le mot philosophe avait un autre sens dans le premier siècle qu'aujourd'hui. Le monde philosophie voulait dire quasiment l'étude d'une vision du monde autour de laquelle on construisait toute notre vie. C'était toute une vision du monde. Il y avait des philosophies que plusieurs personnes différentes avançaient, et dans le marché, dans leurs écoles personnelles, il était en compétition. Aujourd'hui, philosophie peut avoir cette connotation de vision du monde, mais souvent c'est une discipline assez avancée, assez théorique, assez intellectuelle, qu'on trouve dans les grandes universités, dans les assez petits départements, pour ceux qui sont suffisamment intellectuels pour comprendre soit Platon, soit Derrida. Mais dans le premier siècle, ce n'était pas comme ça. C'était plutôt une vision que tout le monde adopterait pour gouverner comment vivre. Donc, le stoïque ou l'épicurien n'était pas tout simplement engagé à persuader quelques autres intellectuels, mais persuader le monde comment vivre. Et ça prenait une vision du monde pour le faire, mais c'est pour cette raison que les premiers Grecs et les premiers Latins voyaient que le christianisme était une philosophie. Parce que les chrétiens donnent une façon à vivre. Maintenant, c'est beaucoup plus qu'une philosophie, en fin de compte. C'est l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus et sa résurrection. Mais c'est une des raisons que les païens voyaient le christianisme de cette façon. C'est comment vivre, vous voyez, hein? Donc, quand on voit le mot philosophe ici, des philosophes épicuriens et tout cela, c'est une question plutôt de vision de monde. Et donc, assez souvent, quand nous voulons expliquer l'Évangile à un voisin ou un ouvrier dans notre compagnie, ils ne sont pas philosophes dans le sens moderne, mais ils ont une vision du monde. Même si ce n'est pas bien articulé, ils ont une vision du monde. Vous voyez? Et il faut le comprendre. Et ça veut dire aussi que si nous faisons l'évangélisation avec un Français né ici en France et avec les valeurs d'humanisme et de la laïcité, c'est un peu différent que si nous faisons notre évangélisation, disons, parmi les musulmans qui sont ici en France ou en Suisse, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont une autre vision du monde. C'est le même évangile, mais pour s'entretenir avec eux, ça prend une connaissance de leur vision du monde pour savoir comment changer cette vision du monde à une autre. Et c'est ça que Paul fait, en effet, dans son sermon. Il essaie de créer une autre vision du monde. Parce qu'autrement, le message de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, ne fait pas du sens du tout, à moins que ça soit dans la vision du monde biblique. Et donc, Paul commence. Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. Oui, je ne pense pas qu'on dirait cela aujourd'hui. Ce n'est pas un compliment. Probablement on dirait aujourd'hui, je vois que vous êtes tous extrêmement spirituels. Et c'est à peu près cela que Paul veut dire ici. Il ne veut pas dire qu'il approuve toutes ces religions. Il va les condamner d'ici quelques lignes. Hein? Mais quand même, il voit qu'au moins ils sont soit religieux, soit spirituels, même s'ils n'ont pas encore adopté la vraie spiritualité. Donc, il s'approche d'eux avec respect, avec intelligence, avec sympathie. Hein? Il ne commence pas tout simplement avec la condamnation. Nous savons aussi que les discours de l'Aréopage prennent des fois des heures. Nous ne savons pas combien de temps Paul avait avant que ses auditoires son auditoire l'a cancellé, en effet. Mais quand même, probablement il avait au moins une heure ou deux heures. Hein? Et nous pouvons lire son message dans deux minutes. Ça veut dire que chaque phrase, en effet, est un point. Nous n'avons pas ici son message. Nous avons l'esquisse de son message. Et si nous voudrions savoir à peu près comment il exprimerait chaque point, comment il pourrait développer chaque point, en général, on peut juger. Parce que la plupart de ces points, il traite ailleurs dans ses écrits. Je vais mentionner quelques-uns en passant. Eh bien, donc, comment est-ce qu'il commence? Je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux, car... Encore sa préamble, son introduction, encore ses compliments. Car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte. J'ai même trouvé un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Maintenant, dans le monde polythéiste, les dieux étaient responsables pour les domaines différents. Il y avait un dieu de communication, Hermès en grec, Mercure en latin. Et donc si on était responsable de donner un discours quelque part, on offrait un sacrifice à Mercure, parce que c'était lui le dieu de la communication. Si on voulait prendre un voyage à travers la Méditerranée, donc il fallait offrir un sacrifice propitiatoire à Neptune. Donc, ils avaient tous leur domaine. Il y avait des milliers de dieux. Chez les hindous, des millions. Mais au moins, parmi les grecs et les latins, des milliers. Et sans doute, c'était possible d'oublier un dieu ici et là. Ou peut-être ne les pas connaître. Et peut-être ce serait à ce point qu'un dieu pourrait se fâcher contre nous, ou une déesse pourrait se fâcher contre nous, puis tout d'un coup, notre vie se serait détruite. Donc, même il y a un autel ici à un dieu inconnu. Et quand Paul dit ceci, jusqu'à ce point, probablement, les Athéniens pensaient, oui, nous sommes sages, nous offrons même des sacrifices à ces dieux inconnus, afin de nous protéger, nous sommes spirituels, ou religieux si vous préférez. Mais Paul prépare le terrain. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Maintenant, par cela, il ne veut pas dire « je vais vous introduire à ce Dieu inconnu ». Il veut dire plutôt que par cet autel, il annonce en réalité comment ils sont ignorants de ce domaine. Votre autel au Dieu inconnu démontre que votre spiritualité est remplie d'ignorance. Et moi, je vais vous faire connaître le Dieu de l'univers. Imaginez-vous comment l'auditoire était silencé et silencieux à ce point. Et il commence. Quels sont les points qu'il établit? Numéro 1. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits par la main des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Premièrement, donc, il établit la doctrine de Dieu. Il établit, premièrement, que Dieu est le Créateur de toutes choses. Il y avait plusieurs doctrines différentes de création parmi les Grecs. Je n'ai pas le temps de les survoler ici. C'était assez commun de penser que le plus grand Dieu, les plus grands dieux des fois, avaient créé d'autres dieux qui avaient préparé d'autres dieux. Et en fin de compte, on arrive à un Dieu suffisamment petit qu'il crée le monde matériel. Mais on ne pourrait pas imaginer qu'un véritablement grand Dieu pourrait créer directement le monde matériel parce que lui, il est tellement spirituel que le monde matériel ne l'intéressait pas beaucoup. Mais Dieu, le Dieu de la Bible, a tout créé. Chose visible, chose invisible. Et cela établit pour Paul le fondement de notre responsabilité. Est-ce que vous avez des fois donné votre témoignage à quelqu'un, puis après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, la personne répond et elle dit, et je suis bien content si ton Jésus t'aide. Si ton Jésus te donne un peu de secours de temps en temps, que tu te sens béni par ton Jésus. Mais franchement, je m'en fiche, je suis bien spirituel, mais j'ai une autre spiritualité. Tu as la tienne, j'ai la mienne. Et franchement, ta spiritualité ne m'intéresse pas. Et si tu veux encore être mon ami, franchement, j'aimerais bien si tu fermes la gueule. Est-ce que des personnes se sont approchées de vous avec à peu près ce message? Hein? Comment répondre? Des fois, il faut être tranquille un petit peu, être sage, prendre son temps, être gentil, oui. Mais un jour ou un autre, avec une tasse de café, un gros sourire, il faut dire, je ne veux pas t'offenser, mais la chose que je ne peux pas faire, c'est d'être silencieux, parce que selon ma compréhension, Dieu t'a créé et tu lui dois tout. Et il va te juger. Et ce n'est pas un acte d'amour de ma part si je protège ma silence. Il va te juger, tu lui dois tout. Et donc tu es dans le plus grand danger si tu ne vois pas ce danger. Ne faut-il pas dire ça? Plus tôt, plus tard? Oui, des fois plus tard, mais quand même, il faut dire. Parce qu'en fin de compte, le fondement de notre responsabilité envers Dieu, c'est la doctrine de la création. Nous existons à cause de sa volonté et pour sa gloire. Nous sommes responsables à lui parce qu'il nous a créés. Nous avons été créés par lui et pour lui. Et ce texte, Colossiens 1, 15 à 20, a fait référence même à Jésus-Christ lui-même, comme l'agent de Dieu dans la création. Toute chose a été créée par lui et pour lui. Et donc, essayer de mettre Jésus en marge, c'est déjà de nier, en effet, notre responsabilité envers lui. J'ai été créé pour lui. Quelle insulte de penser, donc, que Jésus, c'est seulement une forme de spiritualité. Je choisis une autre. Et j'avoue, des fois, ça ne nous rend pas très populaires. Mais l'Évangile divise. Il n'y a rien de nouveau dans cela. Il y a des personnes qui vont être touchées dans leur conscience, d'autres personnes qui vont se fâcher. Oui, je comprends. Mais tôt ou tard, il faut dire cela, n'est-ce pas? Paul établit le fait que Dieu est créateur. En plus, il est le Seigneur du ciel et de la terre. Il est le souverain. Et il n'habite pas dans les temples faits par la main des hommes. Le point ici, ce n'est pas qu'il n'y a pas un temple pour les Juifs, par exemple, où Dieu s'est révélé. Mais même dans le temps de Salomon, quand le temple a été construit, c'est dans la prière de Salomon lui-même qu'il admet que même les cieux des cieux ne peuvent pas contenir ce Dieu, et donc certainement pas ce temple qu'il a construit. Donc dans l'Ancien Testament, malgré le fait que Dieu se présente, se révèle dans le temple que Dieu lui-même a ordonné, ce n'est pas comme si ce temple à la possibilité de domestiquer ce Dieu. Le temple parmi les païens était la base pour domestiquer les dieux. Dieu se présente dans le temple, on lui offre des sacrifices, on reçoit de ces dieux ou ces déesses des bénédictions, et la religion devient une espèce de barter system? Oui, un système de troc. Hein? On offre nos sacrifices et nos prières et notre argent, puis il nous offre des bénédictions et ce système de troc, en fin de compte. Hein? Ils sont plus grands que nous, mais les temples et les prêtres existent pour domestiquer ces dieux afin qu'ils ne soient pas trop dangereux. Et par ce système de troc, en fin de compte, la religion avance et je suis protégé, et les dieux sont contents, je suis content. Mais le Dieu de la Bible ne peut pas être domestiqué par un temple. Il est souverain. Donc ça prend toute une autre vision de Dieu. Même les dieux, même les Grecs parlaient assez souvent de Dieu dans le singulier et des dieux dans le pluriel. Et dans leurs écrits, ils peuvent passer d'un à l'autre. Si vous avez jamais étudié les classiques, c'est notoire. On s'aperçoit que les Grecs peuvent parler du singulier et peuvent passer du singulier au pluriel assez facilement quand ils parlent des dieux. Pourquoi? Parce que dans le singulier, c'est presque un dieu de... Encore un autre mot technique. De panthéisme, Est-ce qu'on dit panthéisme en français? C'est le Dieu qui est attaché presque à toute chose. Et ce Dieu attaché à toute chose se représente dans les dieux individuels et finis qu'on trouve dans les listes des dieux dans les religions grecques. Hein? Mais pas ce Dieu. Le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu de panthéisme. C'est le Dieu qui a tout créé. Donc il y a une distinction entre le Créateur et la création. Et donc la création est responsable envers lui. Et on ne peut pas le domestiquer par nos temples parce que, après tout, ce Dieu est tellement grand qu'en fin de compte, ce n'est pas un système de troc, la religion biblique. Ça prend la grâce. Autrement, on est détruit. Qu'est-ce que nous avons à lui offrir? Donc, il prépare déjà, avant de mentionner le péché, il prépare le chemin par une vision de Dieu si grande que nous sommes préparés pour ce que c'est la grâce. Et même, il n'est pas servi par des mains humaines. C'est encore plus clair, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Voyez-vous, dans ce système de troc, les dieux ont leurs besoins. Les êtres humains ont leurs besoins. C'est cela qui établit le système de troc. Donc, on essaie à plaire aux dieux parce qu'ils ont leurs besoins. Nous commençons à comprendre leurs besoins et donc nous commençons à comprendre quelle sorte de sacrifice ou de paiement il faut leur donner. Mais si Dieu n'a pas de besoin, qu'est-ce qu'on va lui offrir? Il faut dire, il faut répéter parmi les chrétiens aujourd'hui que Dieu n'a pas de besoin. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nos louanges. Comme si Dieu se trouve dans les cieux et il dit, « Oh, j'attends le dimanche afin que j'entende encore des louanges. Pauvre moi, je suis pas mal triste aujourd'hui. Ça fait 5 jours déjà que je n'entends pas de louanges. » Dans l'éternité passée, avant la création du monde, Dieu était complètement content. Il est content de lui-même. Il n'a pas de besoin. Il n'a pas créé le monde parce que, pauvre Dieu, il semblait un peu seul, hein? Voici une des forces de la doctrine de la Sainte Trinité. Dieu était dans l'éternité passée, toujours le Dieu d'amour. Le Père aimait le Fils aimait le Père. Complètement content. Ce Dieu n'a pas des besoins. Je ne sais pas si le français avait déjà développé du latin le monde aseité. Le mot « aseité », oui, mais c'est un mot pas mal perdu maintenant parmi les Français, parmi les Anglais. Autrefois, parmi les Anglais aussi, dans le temps des Puritains, on parle de l'aseité de Dieu. Et apparemment, parmi les Français semblables. Ça vient du latin « asé », de lui-même. Dieu est tellement de lui-même qu'il n'a pas besoin de nous. C'est le Dieu, non pas tout simplement de souveraineté, mais de « aseité ». C'est le Dieu de lui-même. Maintenant, quand même, A-S aigu, I-T aigu, E aigu, probablement en français. Oui? Je cherche avec monsieur le théologien ici. A-S-E aigu, I-T-E aigu. A-C-I-T. Maintenant, je ne veux pas être mal compris. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Ou qu'il n'a pas de réaction personnelle à notre égard. Ou qu'il ne peut pas se mettre en colère contre nous. Ou qu'il nous voit d'une distance tellement éloignée qu'il s'en fiche de ce que nous faisons. Je ne veux pas dire cela du tout. Mais s'il répond à nous, à nos actions, à notre foi, à notre désobéissance, c'est parce que il choisit de le faire en ligne avec son caractère. Pas parce que, pauvre Dieu, il a des besoins que nous et nous seuls pouvons pourvoir. Et donc, la dépendance va dans seulement une direction. Notez bien. Il n'est pas servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Encore une fois, nous dépendons de lui. Pas le contraire. Ce n'est pas un système de trucs. Donc, la doctrine de Dieu, et ensuite la création, et ainsi de suite. Verset 26, la doctrine des êtres humains. Il a fait que toutes les nations humaines, issues d'un seul homme, habitent sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux, et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver, si possible, en tâtonnant. Eh bien. Pour les païens, il y avait des dieux pour chaque race, même plusieurs dieux pour chaque race, pour chaque tribu des fois. Donc les dieux et les déesses étaient attachés à une race quelconque, une tribu quelconque. Hein? Mais voici la vision biblique, la vision de monothéisme, c'est-à-dire un dieu de tout le monde. Et malgré le fait que le pluralisme aujourd'hui s'avance, il y a des personnes qui veulent dire qu'il y a de spiritualité différente pour les personnes différentes, les cultures différentes. À la fois, les pressions aujourd'hui de la globalisation trouvent ça beau de voir des hommes et des femmes de chaque race qui s'aiment. Parce qu'il y a un seul Dieu. Je dis assez souvent à mes étudiants qu'à un certain niveau, Los Angeles, la grande ville de Los Angeles, presque 20 millions de personnes, est plus comme les cieux que Lincoln, Nebraska, une petite ville dans les prairies complètement blanc. Parce qu'autour du trône, le dernier jour, nous allons voir des frères et sœurs de chaque langue, chaque tribu, chaque pays, chaque culture, avec un seul Dieu, rempli de louanges pour celui qui est assis sur le trône et l'agneau. Donc les implications d'un seul Dieu peuvent être présentées comme quelque chose de magnifique, de véritablement beau, dans notre culture, pourvu que le monde voit que c'est vrai pour nous, que dans notre assemblée, que dans notre église, nous avons des personnes qui sont représentées dans les alentours, dans notre culture, chez nous. Maintenant, si dans vos alentours vous êtes complètement blanc ou vous êtes complètement noir, eh bien, ça ne me trouble pas du tout si l'église est complètement noire ou blanche. Mais autrement, l'Église devrait avoir dans ses membres des représentants de toute personne dans les alentours, n'est-ce pas? Grec, juif, et toute race, toute culture. Je sais que c'est difficile. Mais je peux vous introduire aujourd'hui à des églises comme cela. Je connais une église. Je connais une église, par exemple, où il y a trois pasteurs. Le premier est Mexique. Son épouse vient de Vietnam. Deuxième est blanc. Son épouse est africaine. Troisièmement, je ne sais pas combien de races dans son pot. Et son épouse, je pense qu'elle est chinoise. Ou coréenne, j'oublie là maintenant. Et ils reflètent tout simplement les personnes dans leurs assemblées. C'est une anticipation, c'est une attente de l'éternité. Et c'est basé, en fin de compte, sur la doctrine de la création, n'est-ce pas? Ensuite, il continue. Il est souverain sur les nations, il détermine les temps fixes, et ensuite. Afin qu'il cherche Dieu, verset 27, pour le trouver si possible en tête. Non, c'est-à-dire, c'est la première fois dans son discours où l'apôtre Paul introduit le fait qu'il y a quelque chose de méchant dans cette création. Et même à ce point, c'est tout simplement une intimation. C'est-à-dire, apparemment, ces personnes sont tellement éloignées de lui que Dieu veut qu'il le cherche. Qui présuppose qu'apparemment, il y a bien de ces personnes qui ne le cherchent pas. Mais jusqu'à ce point, il n'a pas donné l'explication de cela. Il a passé tellement de temps sur la doctrine de création, qui sont les êtres humains, leur responsabilité envers Dieu, la contradiction de polythéisme et tout cela. Il commence à créer toute une vision du monde. Mais à ce point, il a introduit le fait qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal. Et ensuite, il ajoute, « Or, il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. « Nous sommes aussi de sa race. » Ça, c'est intéressant. Voyez-vous, aussitôt qu'on souligne la souveraineté de Dieu, l'indépendance de Dieu, la séité de Dieu, il y a toujours un danger que Dieu devient le Dieu tellement distancé qu'il ne s'intéresse pas à nous. Donc le christianisme insiste à la fois que Dieu est transcendant, c'est-à-dire plus élevé que la création, que le temps, et à la fois qu'il est le Dieu immanent. On ne peut pas s'échapper de lui. Il est toujours présent. Il s'intéresse à chaque détail. Dans l'enseignement de Jésus, pas un seul cheveu de ma tête peut tomber sans son décret, sans sa permission et sa connaissance. Vous voyez? Donc, malgré le fait que c'est un Dieu sans besoin, un Dieu souverain, un Dieu créateur, ce n'est pas un Dieu distancé. Et à ce point, les poètes païens ont des compréhensions, même si par ces paroles, ils ne veulent pas dire exactement ce que nous voulons dire. Ils ont quand même une espèce de compréhension de l'intimité. Donc, l'apôtre Paul ici est prêt à citer des auteurs païens. Il n'a pas mentionné Genèse à ce point avec un texte, une citation, malgré le fait qu'il a enseigné. Il enseigne les doctrines de Genèse, mais à ce point, il est aussi prêt à citer Foucault, ou Ferry, ou qui que ce soit. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il est complètement d'accord avec Ferry, ou ce poète mineur parmi les Grecs. Ça veut dire tout simplement, il voit quand même que la grâce commune de Dieu enseigne des fois tout le monde par les écrits des non-croyants. Ils ont des perspectives qui ont raison des fois. Et on peut les citer, même si sur d'autres questions, notre avis, ils se trompent complètement. Ça signifie encore que l'apôtre Paul essayait de comprendre sa culture, même de le respecter. Mais ça n'ôte pas le fait quand même qu'il est prêt aussi à le contredire, le corrector, même le condamner. Verset 29. Pour la première fois, l'apôtre Paul explique ce qui va mal. Il introduit le péché. Il ne mentionne pas, mais il introduit quand même. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination des hommes. Qu'est-ce que l'apôtre Paul souligne dans cette grande question de péché? L'adultère? l'idolâtrie. Il ne parle pas, premièrement, de briser les lois de Dieu. Il parle plutôt de l'idolâtrie, c'est-à-dire de la dédivinisation de Dieu. C'est-à-dire, ce que fait l'idolâtrie, c'est doter la déité, la divinité de Dieu lui-même. Je deviens Dieu. Et il faut se rendre compte du fait que l'apôtre Paul parle ainsi à ses souvenirs. Il lit son Ancien Testament. C'est pour cette raison aussi qu'il a une christologie adamique et non tout simplement une christologie de grand prêtre. Donc, il parle de ce qui prend place entre Adam et Moïse. La mort règne d'Adam à Moïse, malgré le fait qu'il n'y avait pas de loi. Parce qu'il y avait encore l'idolâtrie. Nous étions déjà perdus. Même si le monde n'est pas conscient du fait que Dieu a dit, il ne faut pas faire ceci, il faut faire cela. Dans ce sens, le monde, ignorant de la parole de Dieu, peut-être ne sait même pas qu'ils sont en contradiction avec la loi de Dieu. Quand même, ils sont remplis d'idolâtrie. Un mouvement qui veut dire en effet que je suis Dieu, ou que je choisis mes dieux, ou que je crée mes dieux. Mais je ne flèche pas mes genoux vers le Dieu qui est là, le Dieu qui est vrai, le Dieu qui s'est révélé, le Dieu qui m'a créé. Voici l'idolâtrie. Donc, dans un sens important, tous nos problèmes, nos meurtres, convoitise, matérialisme et tout cela, dans un sens biblique, est basé sur la première erreur. Je n'aime pas Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de tout mon esprit. C'est pour cette raison que c'est la première loi. C'est la seule loi que nous contredisons chaque fois que nous brisons une autre loi. Et c'est pour cette raison aussi qu'en fin de compte, chaque péché est contre Dieu. Vous vous souvenez de David? Il a commis l'adultère. Il a commis le meurtre. Ensuite, il a l'audace d'écrire Psaume 51. Il s'adresse à Dieu et il dit, « contre toi seul, j'ai péché. » Misère. Dans un sens, ce n'est pas vrai. Il a péché contre Bathsheba. Certainement, il a péché contre son mari. Il a péché contre le bébé qui était conçu. Il a péché contre les généraux militaires. Il les a corrompus. Il a péché contre sa famille. Il a péché contre le peuple qu'il gouvernait. C'est difficile de trouver une personne contre lequel il n'a pas péché. Mais il a l'audace de dire, « Contre toi seul j'ai péché. » Parce que dans le sens le plus profond, le péché est odieux. Le péché est le péché. Parce que c'est contre Dieu. Nous avons besoin de retrouver le pardon de nos copains quand nous les offensons, sans doute. Mais si vous offensez un copain, un collègue, c'est Dieu qui est le plus offensé. Si vous n'êtes pas honnête quand vous écrivez un examen ici à l'Institut, ce n'est pas Mike Evans qui est le plus offensé. C'est Dieu. Et si vous vous amusez avec la pornographie, ce n'est pas votre épouse qui est le plus offensé. C'est Dieu. Autrement, nous tombons dans l'idolâtrie. Si Dieu est préservé tant que Dieu, chaque offense, et surtout contre lui. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin d'être pardonnés par lui. Autrement, il n'y a pas de manière d'être réconcilié à lui. Une des choses les plus difficiles de faire quand nous faisons l'évangélisation parmi les illettrés aujourd'hui dans l'Ouest, s'y inclut le monde francophone, c'est de faire comprendre le monde ce que c'est le péché. Le péché n'est pas une notion très populaire, très claire. C'est une notion relative. Vous avez votre compréhension de péché, moi j'ai une autre compréhension de péché, comment est-ce que vous pouvez me juger par le vôtre, la mienne est aussi bonne, hein? Quand je fais des missions dans les universités, j'avoue, la chose la plus difficile à expliquer, ce n'est pas la doctrine de la Sainte Trinité. Si je parle de Dieu, Dieu en toi, ou la Sainte Trinité, ou... Le monde me regarde et dit, oh, si les chrétiens croient cela, oui, bien, oui, c'est intéressant. Et si je parle de l'incarnation, ils disent, oh, les chrétiens croient cela, oh, c'est amusant. Si je parle de la résurrection, c'est pas mal difficile à croire, mais oh, dans le monde de spiritualité, c'est possible, oui, oui, oui. Mais si je parle de péché, et c'est pour cette raison qu'il y a bien des chrétiens qui ne parlent plus de péché. Parce que c'est la chose la plus difficile à expliquer quotidiennement, aujourd'hui. La personne, dans mon expérience au moins, qui est le meilleur à expliquer le péché dans un sens fidèle à la Bible, à ce monde illettré, pluraliste, souvent postmoderne, c'est l'homme que j'ai mentionné tout à l'heure, Tim Keller. Malheureusement, ses sermons ne sont pas encore traduits. Ce serait un bon service si quelqu'un prendrait, disons, une cinquantaine de ses sermons, les mettre en français pour les circuler. Si vous savez comprendre, pas lire, il ne les a pas publiés, si vous savez comprendre à l'oreille l'anglais, vous devez aller à la site de web Redeemer.org et cherchez une cinquantaine de ces sermons et vous allez apprendre comment expliquer le péché à un monde du 21e siècle dans l'Ouest. Redeemer.org, Redeemer, .org. Que je traduise, oui. Eh bien, ensuite, il dit, ainsi donc, étant dans la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à l'or, à l'argent, il parle de l'idolâtrie. Verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné. Notez bien, ce qu'il donne ici, c'est une philosophie d'histoire. Bien des Grecs, pas tous les Grecs, mais bien des Grecs, comme bien des Hindous, presque tous les Hindous. Les hindous dévoués, au moins, pensaient que l'histoire va en cercle. Et donc, la réincarnation est la chose qui nous fait monter dans le système, pour ainsi dire, parce que l'histoire va en cercle. Mais, du point de vue chrétien, il y a un commencement, la création. Il y a aussi un temps où Dieu ne s'est pas révélé à tout le monde, qui est présupposé ici. Mais maintenant, quelque chose est arrivé, et maintenant, il annonce maintenant que tout le monde, toutes les races, doivent se repentir devant lui. C'est-à-dire, nous sommes arrivés à un certain point, en vue du jugement qui va être dans l'avenir. Chaque personne va donner un compte de ce qu'il a fait dans sa chair. Hein? Donc, il y a toute une philosophie d'histoire qui a un telos, un point, un but, un jugement final. Paul donne cela aussi, parce qu'il sait que ce n'est pas quelque chose présupposé par un grand nombre de son auditoire. Et à ce point, il introduit Jésus. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a dessiné. Et il en a donné à tous une preuve digne de foi en la ressuscitant d'entre les morts. Une preuve digne de la foi en le ressuscitant d'entre les morts. Maintenant, il y a trois ou quatre choses que je devrais mentionner à cet égard. Puis je vais ouvrir notre temps pour des questions. S'il avait commencé avec Jésus, comment est-ce que son auditoire l'aurait compris? Mais dans un certain sens, je m'en fiche si vous commencez avec Jésus ou non, dans un certain sens. Commencez par exemple par un chapitre des Évangiles pour introduire le monde à Jésus, essayer de le faire comprendre comment il est bon, comment il est admirable, ce qu'il comprend par le royaume de Dieu et tout cela. C'est pas mal, c'est pas méchant. Mais trop tôt ou tard, il faut quand même mettre Jésus dans le contexte biblique. Autrement, on ne le comprend pas. Donc, la question n'est pas s'il faut toujours commencer avec Genèse. Ce n'est pas la question. La question est plutôt, tôt ou tard, il faut mettre Jésus dans son contexte biblique, autrement nous n'allons pas le comprendre. Qui veut dire, il faut établir ce contexte biblique quand notre auditoire a une autre vision du monde. Donc, si nous faisons notre évangélisation seulement dans des cercles ecclésiastiques, où il y a des personnes non converties, certes, qui ont entendu l'évangile dès leur jeunesse, et ils ont une idée, mais quand même, ils ne sont jamais convertis. Eh bien, on peut commencer presque n'importe où, et quand on dit quelque chose en ce qui concerne Jésus, déjà, ils vont mettre dans la bonne place, parce qu'ils vont connaître déjà au moins l'esquisse de l'histoire biblique. Mais pour ceux qui sont vraiment illettrés, Jésus nous donne la vie abondante. On utilise cette expression assez souvent, n'est-ce pas? Qui ne voudrait pas avoir la vie abondante? Qu'est-ce que c'est la vie abondante? Meilleur sexe? Plus de bijoux? Une plus grande maison? On vit jusqu'à 95 au lieu que 70? On devient le boss dans notre shop, dans notre compagnie. Qu'est-ce que ça veut dire la vie abondante? J'ai trois enfants parfaits? Où est-ce que cette expression se trouve, la vie abondante? Ça se trouve dans seulement un passage. Ce n'est pas un concept contrôlant de la Bible. Péché, c'est pas mal contrôlant. La vie abondante, pas bien contrôlant. Et ça se trouve dans seulement un passage. Jean chapitre 10, ça parle des brebis qui mangent beaucoup de gazon. Parce que le bon berger a donné sa vie pour eux. Et pour cette raison, ils ont la vie abondante. Dans le contexte de Jean, c'est la vie éternelle. C'est toute la vie qui aime Dieu et son prochain de tout son cœur à cause de la régénération. La vie abondante? Je n'ai pas peur d'utiliser cette expression. Je prétends tout simplement qu'il faut l'expliquer. Autrement, le monde illettré va mettre cette expression dans un contexte non biblique. Donc, ce que nous devons essayer de faire quand nous annonçons Jésus, quand nous essayons d'expliquer l'Évangile, c'est de reconnaître que pour le monde illettré, presque chaque expression que nous utilisons, presque chaque point que nous voulons établir, va être mal compris. à moins que nous prenions le temps pour essayer d'établir la ligne biblique, l'histoire biblique, la vision du monde biblique. Ensuite, il faut remarquer aussi que l'apôtre Paul ici mentionne Jésus ressuscité. Et à cause de cela, nous lisons, verset 34, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi, Paul sortit du milieu d'eux. Ils se moquèrent de lui. L'apôtre Paul aurait pu éviter cela. Il aurait pu dire, et en vue du jugement qui arrivera à la fin, Dieu nous a envoyé un homme, Jésus de Nazareth, qui est mort et maintenant à la vie immortelle. C'est vrai, n'est-ce pas? Il n'y a rien de faux dans cela. Et tout le monde aurait dit, Amen, c'est profond ça. Mais à place, l'apôtre Paul a mentionné la résurrection. Et pour bien des Grecs, pas tous les Grecs, mais pour bien des Grecs, ça c'est un autre oxymoron. C'est pas croyable. Résurrection donnée par Dieu? Dieu s'intéresse au monde matériel? Mourir et ensuite vivre une vie d'immortalité, oui, oui, on peut y croire, mais la résurrection, après tout, c'est un peu trop ça. Quand même, Paul n'hésite pas d'insister sur la résurrection, même s'il comprend bien, et il comprend bien, que cela va diviser son auditoire. Donc, il faut toujours prendre garde, il faut toujours être sage, de reconnaître ce qui est non négociable dans l'Évangile. Le même Paul, comme nous avons vu plus tôt, dans 1 Corinthiens chapitre 15, il insiste que s'il n'y a pas de résurrection de Jésus-Christ, notre foi est en vain. Donc, il n'est pas prêt ici de permettre un compromis. Donc, il connaît sa culture, il connaît l'Évangile, et il n'est pas prêt, malgré le fait qu'il est flexible, qu'il a du respect pour les poètes païens, malgré le fait qu'il essaie d'exposer l'histoire biblique dans des catégories qui sont comprenables, malgré le fait qu'il introduit d'une façon sage et prudente, ce que c'est le péché, l'idolâtrie, le Dieu de l'univers et tout cela, quand même, il reconnaît qu'il y a des éléments dans l'Évangile qu'on ne peut pas perdre sans perdre l'Évangile. Et si le résultat, c'est qu'il soit rejeté, c'est un prix qu'il va payer. Parce qu'autrement, ce que nous faisons, ce n'est pas l'évangélisation. Parce qu'on a perdu l'Évangile. Eh bien, j'ai bien d'autres choses que j'aimerais dire, mais peut-être c'est le temps maintenant pour des questions et commentaires. Mais n'oubliez pas que j'ai insisté que je ne veux pas dire que Dieu est impersonnel, ou que Dieu n'a pas de réaction envers nous, soit d'amour, soit de colère. Je ne veux pas dire, donc, que Dieu est impersonnel. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais s'il est offensé, ce n'est pas parce qu'il a des besoins, des manques, mais parce qu'il est juste, parce qu'il est saint, parce qu'il est Dieu. Donc, sa créature qui dit, en effet, « Tu n'es plus Dieu, je suis Dieu », ce n'est pas une manque dans Dieu, cela. C'est tout simplement la rébellion en nous. Et si Dieu disait dans ce cas, eh bien, tu peux penser n'importe quoi, je m'en fiche. Est-ce que Dieu serait plus grand ou plus saint ou plus Dieu par cela? Je ne pense pas. Ça lui rendrait avec une manque de divinité, une manque de sainteté. Si Dieu regarde un Hitler, par exemple, et dit, franchement, je m'en fiche, tu peux faire ce que tu veux. Est-ce que ça rendrait Dieu plus beau, plus saint, plus Dieu, ou plus distancé, tout simplement? Et dans un certain point de vue, nous sommes tous des petits Hitler. Donc, il faut à la fois insister que Dieu est souverain, transcendant, il n'a pas de besoin. Donc, le système de religion n'est jamais un système de trucs. Jamais. C'est pour cette raison que nous devons reconnaître notre dépendance de lui, non pas tout simplement pour le salut, mais même le souffle. Même tout ce que nous mangeons, c'est ce que dit le texte. Chaque fois que vous prenez un souffle, c'est par la permission de Dieu. Tu lui dois tout. J'ai dit cela à maintes reprises à travers les universités du monde anglophone. Mais ce n'est pas parce que il y a un système de trucs, donc. Et en plus, en fin de compte, parce qu'il est créateur, il n'a besoin de rien. La seule manière par laquelle nous pouvons être réconciliés à lui, c'est encore à cause de sa grâce. Parce que nous n'avons rien dont il a besoin. Rien pour lui offrir de quoi. Il me semble que qu'utiliser un mot comme « besoin » comme cela n'aide pas la clarté. Ce n'est pas comme s'il a un besoin personnel à l'intérieur, parce qu'apparemment dans l'éternité passée, si on peut parler de Dieu dans une séquence, le Père aimait le Fils aimait le Père, ça c'est clair dans l'Évangile de Jean, mais il n'y avait pas de créature à aimer à cette période, si on peut parler d'éternité. Ça veut dire que pauvre Dieu, je ne peux rien faire que d'aimer. Mais ce n'est pas exactement le modèle qui est présenté dans la Bible. Il choisit d'aimer. Il aime parce que c'est son caractère. Mais est-ce un besoin? Ce n'est pas un mot qui éclaircit la discussion, il me semble. Non, parce que la Bible, la question était, est-ce que ça va trop loin de dire que Dieu m'a désiré? Parce que la Bible parle des désirs de Dieu dans plusieurs manières. Des fois, le désir de Dieu, c'est son décret. Ce que Dieu désire prend place. Des fois, c'est ce qu'il veut sans parler de son décret ou ce qui va. Donc, le désir de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Dans un autre sens, le désir, ce n'est pas comme ça. Et des fois, le désir de Dieu est lié à son décret personnel pour les élus. Et des fois, son désir, dans 1 Thessaloniciens 4, la volonté de Dieu, le désir de Dieu, c'est que vous soyez saints. Et donc, encore une fois, ça dépend du contexte. Et dans bien des passages, quand je fais des expositions, je suis prêt à utiliser de toutes ces expressions qui dépendent quand même du contexte. Mais je vais utiliser les mêmes expressions d'un autre sens quand un autre contexte l'exige. Autrement, en fin de compte, on essaie de construire une seule doctrine de désir ou une seule doctrine de la volonté de Dieu qui va nous corrompre quand nous arrivons à un autre passage qui parle de la volonté de Dieu, mais qui utilise les mêmes expressions d'une autre façon. Si j'ai 15 minutes à expliquer l'Évangile, je vais utiliser quelques-unes de ces minutes en expliquant la croix. Si j'ai une série de réunions pour à peu près la même foule, c'est possible que je ne vais pas introduire la croix avant la troisième, quatrième, cinquième réunion. Et cela ne méprise pas la centralité de la croix, ça reconnaît tout simplement que la croix n'est pas un mot de magie. La croix est au centre, sans doute. Mais la croix est au centre d'une certaine histoire de salut. Quand on arrive aux évangiles du Nouveau Testament, il y a déjà 30 livres avant cela que le monde illettré ne connaisse pas. Ça ne veut pas dire, donc, que si on essaie de reconstruire un peu de cela, on décentralise la croix, on établit plutôt la structure qui rend la croix centrale. Dans ce passage, je n'ai pas passé assez de temps à ce sujet. J'ai mentionné plus tôt que le texte dit que Paul, dans le marché, dans la synagogue, annonçait la bonne nouvelle de l'Évangile. Il annonçait l'Évangile de la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, nous ne devons pas penser que Paul a tout annoncé l'Évangile dans ce sermon. Il a été terminé avant de tout expliquer. Mais nous savons bien où il irait s'il n'avait pas été terminé, parce qu'il a introduit lui-même la résurrection. Et nous savons où il irait parce qu'après tout, déjà dans le marché, il disait la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? Mais la bonne nouvelle pour Paul, comme dans le Nouveau Testament, c'est la bonne nouvelle de la mort et la résurrection de Jésus-Christ par laquelle seul nous sommes pardonnés et il a payé pour nos péchés et tout cela. C'est ça qu'il faisait. Mais je ne dis pas donc que ce sermon est complet. Je dis tout simplement que Paul, avant d'introduire Jésus et la résurrection, établit le contexte. Et le contexte encore plus large, c'est-à-dire les versets précédents, démontre que ce qu'il faisait parmi les païens, c'était d'annoncer la bonne nouvelle. Oui. Maintenant, ça ne me trouble pas si quelqu'un vous avez une réunion tout simplement pour des étudiants ou pour des personnes de le voisinage, quoi, et vous avez 30 minutes, 35 minutes pour expliquer l'Évangile. C'est possible de donner tout cela dans 35 minutes et insister que c'est la croix seule qui sauve. Oui. Mais quand même, vous savez aussi bien que moi, vous qui essayez d'évangéliser vos voisins ou les étudiants, vous savez aussi bien que moi qu'en général, ils ne sont pas prêts à accepter trop immédiatement et des fois ça prend du temps à construire toute la structure de pensée. Ils se dépendent complètement de leur propre vision du monde, que ça prend du temps à non pas tout simplement expliquer ce que c'est que les chrétiens croient, mais établir sa crédibilité avec l'explication et tout cela. C'est ça que l'apôtre Paul veut faire. Quelle valeur y a-t-il dans la pré-évangélisation? Cette expression comprend bien de choses différentes, donc ce n'est pas facile de donner une réponse courte. Pour bien des personnes, la pré-évangélisation, c'est en réalité à peu près ce que Paul fait dans ses premiers versets. Vous êtes religieux, vous avez vos propres dieux, même le Dieu inconnu. Hein? C'est comme une espèce de respect pour le monde et établir qu'il y a la spiritualité ou la religion dans le temps de Paul. Et nous sommes tous sur la même page à cet égard. C'est ce que c'est, la pré-évangélisation. Et je n'ai pas peur de faire cela si ça ouvre la conversation, si ça rend possible la déclaration de l'Évangile. Mais il y a bien des personnes qui parlent constamment de pré-évangélisation et ils prétendent en effet que c'est l'évangélisation. Et ce n'est pas ça que Paul fait. Quand Paul établit le cadre de l'histoire du salut, ce n'est pas pour lui le pré-évangélisation, ça fait partie de toute l'histoire. Mais il prépare le terrain pour l'Évangile propre parce que l'Évangile propre ne peut pas être compris sans ce cadre. Dans ce sens, c'est encore la pré-évangélisation. Oui. Mais ce n'est pas tout simplement maintenir une distance, sans jamais toucher la croix. Il y a d'autres personnes, comme Ravi Zacharias, je ne sais pas s'il est connu ici. Oui? Et probablement plusieurs de ses livres ont été traduits, je ne sais pas. Je le connais assez bien, je l'estime. Mais son approche dans les universités n'est pas la mienne. Je ne le méprise pas. Mais son approche n'est pas la mienne. Presque toujours, il adopte une position où il donne une espèce d'apologétique, une apologétique pour la réalité de la vérité, ou contre le postmodernisme, ou pour la nature de péché, ou des choses semblables. Et ici, là, quelque part, il y a quelque chose qui concerne la croix, mais la grande majorité de ce qu'il fait, c'est l'apologétique, en effet. Et il y a une place pour ça. Il y a une place pour ça. Mais je préfère moi-même, dans les missions que je fais dans les universités, de commencer toujours avec la parole de Dieu. Et l'apologétique que je fais, donc, c'est quand j'ai déjà fait quelques réunions, quelques conférences, et ensuite les questions commencent à s'avancer. Donc, nous avons des temps de questions et réponses. Après, on les appelle des fois « grill a Christian ». C'est pas trans... Et ça donne une occasion donc de soulever des questions et je peux donner des réponses et tout cela. Donc je préfère retourner immédiatement à la parole de Dieu et je pourvois les pages et ainsi de suite. Je pense qu'on est déjà pas mal en retard. Vous êtes très patient, que le Seigneur vous bénisse.
Je pense que les mots sont assez inadéquats pour exprimer notre reconnaissance. Nous avons vécu trois journées riches, denses, et merci semble insuffisant. En tout cas, nous aimerions dire à Don Carson notre reconnaissance d'avoir accepté de venir dans un petit auditoire et de nous communiquer, de nous faire part des sujets qu'il a abordés. Je pense que pour la plupart d'entre nous, nous éprouvons le besoin maintenant de prendre un peu de temps, un digestif spirituel, pour pouvoir assimiler, réécouter et pouvoir réfléchir aux implications. En tout cas, nous aimerions vous dire un énorme merci pour ces quelques jours que vous nous avez consacrés.